dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans, ne pas entrer dans la colère, mais dans le dialogue, dans le partage, le téléphone c'est le 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychanalyste et gestalt-thérapeute, formateur en relations humaines. Avec Marie-Laurence, son épouse, il vous propose, à travers des parcours qui sont adaptés aux situations très diverses de chacun, et cela au sein de l'Institut de formation psychrétien, donc une aide thérapeutique qui permet une réconciliation avec soi-même, dans toutes les dimensions de son humanité, avec les autres aussi, et cela dans la perspective d'être plus disponible à l'accueil de l'action de Dieu dans notre vie. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, alors j'évoquais la colère, le téléphone, donnant le téléphone, puisque notre sujet de réflexion et de partage ce soir, comment gérer la colère. Nous allons d'ailleurs parler au cours de plusieurs émissions, la gestion des émotions en gros.
Voilà, la colère, après la tristesse. Oui. Après, ce n'est pas tout à fait de l'émotion, on parlera de l'orgueil, de l'humilité.
Oui, c'est autre chose, oui, c'est un peu des passions. Enfin,
voilà, on rentre dans ce type de manifestation.
Alors c'est important justement de voir, de bien situer tout cela. Hein,
ouais.
Hein. Alors donc ce soir nous commençons donc par parler de la colère. Ça c'est, je pense que tout le monde
a vécu. Tout le monde connaît en principe, a vécu des colères. Ça arrive
tout le monde.
Tout le monde. Et puis a subi aussi parfois la colère d'un autre. En même temps, il y a des personnes qui sont plus sujets que d'autres. Il y en a qui ont des difficultés à la gérer, il y en a qui en ont peur. Enfin, on voit que par rapport à la colère, tous égaux, il y a toute une diversité de vécu.
Voilà, oui. Alors donc, tout ça dépend aussi de notre histoire personnelle,
Oui, aussi, ça va dépendre de notre histoire, de notre vécu, de notre personnalité, qui font qu'on va plus ou moins avoir cette capacité à accueillir et à gérer les émotions.
Mmh. Alors, les émotions de base, on peut rappeler, vous nous disiez tout à l'heure, donc là...
Il y a quatre émotions de base qui sont la joie, la colère, la tristesse et la peur.
Il y en a quatre de base. Hein.
Voilà, c'est les...
Pas plus.
Non, il y en a qui disent cinq.
Et alors, qu'est-ce qu'ils mettent dans la cinquième?
Il y en a qui rajoutent de la honte.
Ça serait une émotion, oui.
Alors, c'est là où il y en a quatre ou cinq. Oui. Il y en a qui disent c'est une émotion. Il y en a qui disent non, c'est quelque chose de mix qui est à la fois une émotion et un sentiment.
D'accord. On va voir la différence entre... Oui.
En gros, pour simplifier, c'est quatre émotions de base.
Voilà, quatre. La joie, la colère, la tristesse et la peur. Voilà, quatre émotions de base. Alors, quel est le rôle, finalement, des émotions dans notre vie?
En fait, les émotions, elles sont là pour nous aider à nous adapter face à une situation. Donc, c'est quelque chose d'assez instantané.
Qui est d'un ordre de l'adaptation.
Qui est de l'ordre d'une réaction, d'une réaction d'adaptation, qui vise à nous adapter. Ce qui fait que finalement, une émotion, c'est ni bon ni mauvais. On pourrait même dire que c'est plutôt bon, puisque ça vise à l'adaptation.
Oui.
Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous permet de faire face à la situation. Par exemple, quand il y a un danger... de nous préparer au combat, ça va être la colère, ou à la fuite, la peur, ou à la paralysie, s'il y a besoin aussi, d'élaborer une perte pour la tristesse, ou d'exprimer une satisfaction avec la joie.
Donc, oui, donc à chaque émotion, il y a, vous avez évoqué le combat pour la colère, liée à la colère.
Bon, la colère, la peur aussi.
La peur, oui, peut mener à combattre.
À combattre.
Oui. Mais la fuite, la peur.
Alors,
oui, la fuite.
Voilà,
oui.
On prend des jambes à son cou, la peur donne des ailes.
Oui, c'est ça, il y a des expressions. Donc oui, enfin, on va voir tout cela. Hein. Et alors, les émotions se manifestent, bon, dans les quelles circonstances, on peut dire.
Enfin. Alors déjà, on les retrouve dans tous les événements importants de notre vie.
Oui.
Et dans toutes les situations d'urgence. Et puis après, elles se manifestent dans les choses qui nous marquent, les situations qui nous marquent. Et en même temps, dès que notre vie est en jeu, c'est notre système émotionnel qui prend le contrôle.
Dès que notre vie est en jeu,
voilà.
Le système émotionnel prend le contrôle.
Prend le contrôle sur la raison.
Ah oui.
C'est ce qui fait que toute l'importance des émotions, dès qu'il y a un enjeu vital, la raison est chantée et c'est notre système émotionnel qui va tout gérer, alors plus ou moins automatiquement. Hein. Parfois c'est adapté, parfois ça ne l'est pas, mais quand il y a un vrai danger vital, c'est adapté.
Et donc c'est réactif l'émotion, la raison. La raison,
oui.
C'est plus lent, ça s'élabore.
C'est plus lent, mais même les circuits neuroniques, en quelque sorte, sont beaucoup plus courts pour aller de la perception, de la vue par exemple, ou de la perception au centre de l'émotion qui est dans le cerveau limbique. Que pour aller aux zones d'analyse. Et donc, c'est ce qui fait que quand il y a une urgence, c'est l'émotion qui va...
C'est le plan d'urgence, quoi.
C'est le plan d'urgence.
c'est le système émotionnel, c'est le plan d'urgence.
Qui va réagir.
Oui.
Et après, mais après coup seulement, ça va être revalidé, réanalysé, et puis réajusté aux besoins. Ce qui fait que certaines personnes qui fonctionnent plus sur le système émotionnel réagissent très vite et puis elles peuvent s'arrêter au bout de quelques minutes, par exemple.
Donc, c'est pour chacun d'entre nous, hein, ça dit l'importance vitale des émotions.
Oui.
Alors, comment on peut définir la colère? Qu'est-ce que la colère? Enfin, on sait ce que c'est, bien sûr,
voilà,
mais que...
Alors, d'abord, c'est une émotion qu'on va ressentir face à un certain type de situation. Et en général, les situations qui provoquent la colère sont celles qui nous blessent ou qui nous renvoient à des sentiments tels que l'incompréhension, la frustration, l'injustice... L'impuissance, la trahison, enfin, on pourrait...
Tout cela peut s'accompagner de colère.
Voilà, ou déclencher la colère. Hein.
Oui, déclencher la colère.
Ce qui fait que finalement, la colère, c'est une réaction face à ce genre de situation, mais qui est engendrée aussi par la façon dont on vit la situation. C'est-à-dire que c'est pas que... uniquement la situation qui déclenche la colère,
oui.
Il y a aussi la façon dont on la
oui,
vit.
Oui, bien sûr. Donc il y a un troisième élément qui est là où on peut intervenir à ce niveau-là, non? C'est pas à ce niveau-là qu'on peut intervenir.
Alors, c'est là où on peut intervenir en étant sensible à son ressenti.
Oui.
Et en se disant... Mais
en prenant une distance, peut-être, quelque part.
Voilà, là, je me sens incompris. Ce qui permet de mettre des mots dessus et de ne pas partir dans la colère, par exemple.
Parce que finalement, la colère, ou une émotion, c'est quand on ne met pas de mots. Ça remplace les mots, peut-être.
Alors...
Pas forcément, enfin...
On va voir, c'est plutôt quand ça se passe mal, c'est qu'il n'y a pas de mots.
Ah oui.
L'émotion, c'est quelque chose de quasi de réactionnel, quasi instantané. Il y a un petit temps de décalage entre le sentiment qu'on va éprouver et puis l'émotion, mais c'est quasi instantané. Ça va bien se passer ou mal se passer si on arrive à mettre des mots ou pas dessus. Ah, voilà.
Alors, ça peut être généré, cette colère, par des, vous disiez, des sentiments tels que l'incompréhension, frustration, injustice, impuissance, trahison, tout ça.
Par une agression aussi.
Oui.
Quand on se fait agresser, forcément, oui, on se met en colère et c'est normal. Mais là aussi, l'agression, elle suscite aussi des sentiments en nous dont c'est important d'être conscient. Enfin, il y a vraiment, avec la colère, il y a aussi d'autres sentiments qui sont toujours présents. Qu'il faut découvrir finalement.
Voilà, c'est ça, oui.
Qu'est-ce qui accompagne, qu'est-ce qui est touché en moi qui fait que je me mets en colère.
C'est tout un monde, ce monde des émotions, des sentiments, tout ça, qui permet de quand c'est décrypté, de mieux se connaître et de devenir plus libre, peut-être.
De devenir plus libre et de pouvoir gérer les émotions.
Oui. Hein.
Mais surtout de devenir plus libre et puis finalement, par rapport à la colère, de se mettre beaucoup moins facilement en colère parce qu'on comprend ce qui se passe.
Voilà, c'est ça. Oui, quand on comprend, on...
Il n'y a plus de raison de... Enfin,
oui, c'est atténué en tout cas, oui.
Il ne s'agit pas de devenir sans émotion.
Bien sûr.
Parce que ça fait partie de la vie. Mais en tout cas, on les gère beaucoup mieux.
On n'est pas comme une... on n'explose pas. Enfin, oui.
Voilà.
Alors, la colère, oui, qu'est-ce qu'on peut en dire encore?
Et puis, c'est vrai pour toutes les émotions, c'est qu'elle est contagieuse dans le sens où, par exemple, s'il y a quelqu'un en colère en face de moi, forcément, je vais avoir tendance aussi à ressentir de la colère.
Ah oui.
Donc, il y a un aspect contagieux, mais qui est vrai pour toutes les émotions.
C'est ça, oui, la joie aussi, hein, ça peut...
Ouais.
Toutes les émotions.
Voilà, si quelqu'un est triste, on aura tendance à partager sa peine.
La tristesse, oui.
Quelqu'un en colère, ça va nous énerver et peut-être nous mettre en colère. Et quelqu'un de joyeux, ça va nous rendre joyeux. Donc il y a un côté assez contagieux des émotions.
Oui, oui. Mais c'est intéressant de voir cela parce que ça touche, c'est un moyen de communication aussi rapide, mais contagieux, oui.
Voilà, mais dont il faut prendre conscience aussi. C'est-à-dire que c'est important de réaliser que si mon voisin est en colère, ça va agir sur moi et ça va favoriser chez moi aussi ce même genre d'émotion.
Donc le savoir aussi permet de prendre une distance pour pas...
Voilà,
être réactif. Alors, donc, comment la colère va-t-elle se traduire alors, sur le plan physique?
Alors, le plus souvent par des contractions musculaires dans tout le corps, notamment au niveau des mains, les gens qui serrent les poings. Et ça, en thérapie, par exemple, on est attentif. Quelqu'un qui parle en serrant du poing ou en tapant du poing contre sa main, on se dit, tiens, il y a de la colère derrière. Avec la mâchoire aussi, qui est crispée souvent.
Mm-hmm.
Et ça, ce sont finalement des attitudes assez archaïques ou instinctives.
Mm-hmm.
Qui servent à se préparer au combat, quoi.
Ah,
on serre les dents et...
Et on serre les poings.
Et on serre les poings.
On serre tout, quoi.
Pour être prêt à
une attitude
combattre.
De combat.
Ouais.
D'accord.
Et donc, c'est un espèce d'état d'urgence. On verra, ça peut avoir des influences sur la santé quand il y a de la colère permanente aussi. Hein. Et puis ça, c'est le mécanisme de base. Et puis pour d'autres personnes, elles vont se sentir envahir par une espèce de force qui va les un peu comme une vague. Il y a des gens qui
disent... Il va tout submerger, voilà, non ?
Submerger d'un seul coup par une vague qui monte à l'intérieur. Mm-hmm. Alors, dans ce cas-là, souvent, la colère a risque de basculer dans la violence. Hein, on en parlera aussi après. Ouais. Mais voilà. Mmh. Quand ça monte comme ça, d'un seul coup, sous forme d'une vague, faut faire attention.
Oui, parce que ça peut se transformer. Là,
voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une bonne gestion, quoi.
Bon. Alors, on va y revenir, hein, et puis j'invite aussi nos auditeurs, parce que, voilà, nous parlons de la colère ce soir. La nôtre, celle que l'on peut vivre, celle que l'on subit aussi. Oui. Hein. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre avec vos propres questions ou vos propres témoignages au 01 56 56 44 00. Alors notre programmateur était tout à fait bien inspiré en nous mettant Nadia Bell. C'est tout simplement l'amour en colère.
Radio Notre-Dame. Le feu par le fer, pourquoi tuer son frère pour un bout de frontière? Provoquer la violence pour prouver sa puissance, cultiver l'arrogance pour régner sans nuance. On s'intéresse aux guerres comme au temps qu'il va faire. On regarde le 20h comme un film d'horreur. Instaurer la terreur, dirigé par la peur, crucifier le bonheur et semer le malheur, torturer par plaisir ceux qui n'ont rien à dire, affamer des enfants, les jeter dans des camps. J'ai le cœur qui se serre. J'entends les combats, j'ai l'amour en colère quand résonne le glas. On inflige l'enfer à des millions de mères qui n'ont pas d'autres armes que leur cri et leurs larmes. On extermine ici, on ignore par là. On joue avec la vie, on fait marcher au pas. Qu'est-ce que les religions seraient sans communion? Est-ce qu'un monde idéal se construit par le mal? J'ai le cœur qui se sert.
Nadia Bell, l'amour en colère, qu'est-ce que vous en pensez de voilà, cette colère, mais collective, voilà. Enfin, on a beaucoup plus, oui.
En fait, c'est sa réaction.
Réaction à elle, oui, de colère.
De révolte. De colère, oui. Qui est une bonne colère, oui. Face à toute la violence du monde, oui, et de l'humanité.
C'est ça, oui. Hein.
Donc là, on peut dire qu'elle a une colère...
Légitime.
Légitime.
Une saine colère.
En tout cas, par rapport à ce qu'a, aux situations qu'elle décrit.
Qu'elle décrit. Ben, on va voir qu'il y a les colères, les bonnes et les mauvaises aussi. Bon. Alors... Nous disions que la colère est donc une émotion, hein, tout comme la joie, la tristesse et la peur sont les quatre émotions de base. La colère, c'est une réaction face à une situation comme là. Hein,
qui crée un sentiment en nous.
En nous, oui.
Qui va se mêler à la colère d'injustice. Là, c'est de révolte. Pour elle, finalement, elle est révoltée par la violence, des hommes. Mm-hmm. En fait, ce qui déclenche sa colère, c'est sa révolte.
Oui, oui. Hein, oui.
Qui est justifiée, en l'occurrence.
Oui, oui, oui. Ouais. Justement, ça peut, justement, ne pas rester passif, ça peut mener, justement, à une solution... résoudre, enfin en tout cas s'engager dans quelque chose.
Oui, dans des actions ou humanitaires, ou politiques, ou autres. Mmh. Et son titre est beau d'ailleurs, parce que...
L'amour en colère.
Oui, hein, pas j'ai la haine contre les autres.
Non, c'est son amour.
Justement parce que j'aime. J'aime les hommes, j'aime les gens, ça me met en colère de voir cette violence.
Et c'est ça qu'on sent tout de suite et qui, voilà, on sent quelque chose de positif
quand on écoute. Oui.
Alors, donc, on disait comment elle se traduisait physiquement par les poings ou les mâchoires serrées, par exemple.
Voilà, par des tensions dans tout le corps.
Hein. Oui. Et parfois une force qui monte. Hein, dans
Vague d'énergie, en
une
quelque
vague d'énergie,
sorte,
oui.
Hein, qui va monter dans la personne, mais à ce moment-là, souvent, quand ça monte comme ça en vague, ça risque de basculer dans quelque chose de violent.
Oui. Bon, on va en reparler de ça. Mais, par contre, il y a quand même bien des préjugés sur la colère, Pascal Parinet. Quels sont-ils, ces préjugés sur la colère?
En tout cas, elle est souvent mal perçue socialement. Le premier des préjugés, c'est qu'elle est vue comme une perte de contrôle, comme quelque chose qui, du coup, ne se fait pas ou ne doit pas se faire. Et quand on regarde, finalement, les parents apprennent aux enfants à contrôler leur colère, voire même à ne pas se mettre en colère et à réprimer la colère. Je crois que ce qui est important, ce qui est vraiment utile, c'est de contenir la colère. Il ne s'agit pas, et ça c'est vrai dans l'éducation, mais c'est vrai pour tout le monde, il ne s'agit pas de l'étouffer, de mettre un couvercle dessus, parce que sinon ça fait cocotte-minute,
la pression explose, monte. Au bout d'un moment.
Mais de la contenir, et quand c'est celle d'un enfant, ça lui apprend aussi à contenir sa propre colère. C'est parce qu'elle est contenue par les parents qu'il va pouvoir apprendre lui-même comment la contenir.
Oui, puisqu'on disait que c'était contagieux. Alors, si c'est dans le bon sens aussi, si on apprend à la contenir, en face aussi, il y aura...
Voilà, et puis il y a une élaboration. Un parent qui voit son enfant en colère, d'abord il contient, et en même temps il peut renvoyer des mots, dire « t'es en colère parce que je sais pas quoi ». Et à ce moment-là, l'enfant apprend et à contenir et à donner du sens à ce qu'il vit.
Oui.
Et voilà, petit à petit, comme ça, il va apprendre à gérer ses émotions.
Il sait pourquoi, et le fait de le dire à l'enfant, ça va donner du sens. Oui.
Ça donne du sens et ça lui permet lui-même d'élaborer son propre vécu, son propre ressenti, et d'apprendre à le gérer, du coup.
Alors, on va voir, contenir, ça demande une certaine maîtrise.
Oui. Ça demande une maîtrise,
mais pas
de la rigidité.
C'est ça.
Moi, j'aime bien séparer maîtrise et contrôle.
Ah oui.
La maîtrise, il y a de la souplesse, il y a de l'élaboration, on en fait quelque chose. Mm-hmm. Alors que le contrôle est plutôt quelque chose de rigide et qui réprime Mais
oui, tout contrôler, voilà. Bon, c'est tout.
Ça éteint la vie.
Ça éteint la vie, ah, oui, oui.
Ça bloque la vie. Mm-hmm. Alors que la maîtrise, ça permet d'exprimer d'une façon juste.
Voilà. En tout cas, la colère, on peut dire, n'a pas bonne presse quand même.
Elle n'a pas bonne presse. C'est pratiquement interdit de se mettre en colère en société.
Oui, voilà. Au point de vue, ce n'est pas une bonne image sociale.
Voilà. Ouais. Et puis, elle fait peur aussi. C'est quelque chose, on craint les personnes qui se mettent facilement en colère, par exemple. On a peur de leurs paroles, de leurs remarques, parfois des gestes aussi.
Ça peut être blessant, on ne sait jamais.
Voilà, on ne sait pas comment réagir, ouais. Comment va réagir l'autre, et du coup, souvent il y a une peur des gens qui sont un peu colériques. Et puis il y a un autre aspect, c'est que c'est difficilement maîtrisable la colère, parce que il y a une sensation agréable avec, qui est le sentiment de puissance. La personne en colère, ou qui se met en colère, se sent puissante.
Oui.
Du coup, quelqu'un qui se met en colère souvent, c'est une façon de se sentir puissant. Et il aura du mal à maîtriser, parce qu'il y a ce bénéfice secondaire, en quelque sorte. Dans la tradition chrétienne...
La colère est considérée
comme une passion, oui. Et même comme un péché. Ça fait partie de l'ensemble des passions.
Oui.
Alors, je crois que c'est important de nuancer, parce que sinon, les personnes qui se mettent en colère, et parfois en colère juste, ils vont se sentir coupables.
Vont réprimer ou refouler, refouler la colère.
Et d'ailleurs, quand on regarde les passions au début, à l'origine, dans la tradition chrétienne, il y a un aspect positif qui est...
Un élan de vie, finalement.
Un élan de vie. Et par exemple, ça peut être la colère pour défendre sa foi ou pour affirmer sa foi. Et puis, il y a la colère qui va viser à faire mal aux autres. Dans toute passion, il y a un aspect qui est tourné vers Dieu, dans le bon sens du terme.
Vers le haut et un autre vers le bas.
Et donc...
Orienter, on parle d'orienter ses passions, donc les orienter vers le haut, c'est une force.
Voilà.
Elle détruit, si elle est tournée vers le bas, vers le haut, elle peut être constructive.
Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut nuancer pour que les personnes ne se sentent pas toujours coupables quand elles ont une colère.
Pensent que c'est un péché. C'est une passion. À orienter.
Voilà. Et puis, quand on regarde Jésus, quand il chasse les marchands du temple, il est en colère. Moi, j'entends souvent dire les gens, « Oui, mais c'est Jésus, du coup, c'est une sainte colère. »
Oui, on entend ça. Oui,
alors,
oui.
C'est une colère orientée justement pour la défense de Dieu, en tout cas du lieu saint. Mais c'est quand même une colère.
Oui. Dans son humanité, il a éprouvé ses émotions humaines aussi. Voilà. Là, c'en est une. Ouais. Et une passion bien orientée.
Bien orientée, parce qu'elle visait à défendre
un lieu saint, sacré.
Et en tout cas, à défendre la vie spirituelle. Mm-hmm. Et donc, la question, c'est plutôt, finalement, est-ce qu'il y a des bonnes... ou des mauvaises colères, que de dire la colère, c'est forcément mauvais.
Oui, oui. Des saintes colères et des mauvaises colères. Alors donc, vous dites, vous, plutôt des bonnes ou des mauvaises, c'est ça?
Oui.
Alors, on va peut-être essayer de faire le tri entre, différentes... parce que dès qu'on parle de la colère aussi, tout à l'heure on évoquait la violence...
On mélange un peu tout, en fait... Alors, peut-être avant de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, on va dire, essayer de distinguer ce qui est de l'ordre de la colère, de l'agressivité, de la violence, de la haine.
Mmh. Oui. Alors, donc, on vient de voir que ce qu'est la colère, c'est donc une réaction qui est face à une situation donnée, à laquelle s'ajoutent des sentiments intérieurs, on peut dire.
Intérieurs, comme l'injustice, la révolte ou autre.
Alors, par rapport à la colère, qu'est-ce que c'est que l'agressivité, par exemple?
Alors, c'est d'un autre ordre. L'agressivité, ce n'est pas une émotion. C'est une expression de la pulsion. C'est une forme pulsionnelle.
Hein. D'accord, oui.
Mais en même temps, tout comme la colère qui est neutre, qui peut être positive ou négative.
Hein. Oui. L'agressivité est-elle neutre aussi?
Alors, qui est neutre dans le sens où elle peut être ou positive ou négative.
Oui. C'est ça, c'est aussi une orientation.
Voilà, c'est comme la colère, qu'est-ce qu'on en fait. Hein.
Oui.
Et chez l'enfant, c'est quelque chose qui est très important pour conquérir son identité, parce que va falloir qu'il s'affirme, qu'il affirme son identité, et l'agressivité, c'est un des moyens qui permet ça.
Mmh.
Donc c'est quelque chose, tout comme la colère, de naturel chez l'homme, et qui commence dès l'enfant.
Oui.
On voit les petits bébés, les petits enfants exprimer de la colère, de l'agressivité, et c'est normal.
D'accord. Donc,
c'est une façon de devenir autonome, finalement. Hein. Mm-hmm. En tout cas, c'est ce qui permet d'acquérir l'autonomie.
Alors, il ne faut pas que ce soit réprimé. Enfin, il ne faut pas que les parents... Quelle est l'attitude
voilà,
des parents
comme
pour
la
ne...
colère, oui. C'est la contenir et apprendre à l'enfant à l'orienter d'une façon constructive.
Voilà. Ouais. Donc c'est tout, ça fait partie de l'éducation à la liberté de l'enfant.
Parce que normalement l'agressivité, elle est en lien avec l'élan vital et avec l'instinct de conservation.
Oui.
La plupart des activités humaines, ça nécessite une dose d'agressivité. Voilà, si on commence avec le fait de manger, de se nourrir, ben, faut bien agresser les aliments, aller à la chasse, arracher les fruits de l'arbre, c'est une agression.
Donc, alors, il y a une façon de le faire, peut-être.
Alors, il y a une façon de le faire avec amour, en remerciant Dieu.
C'est l'action de grâce,
voilà,
oui, justement.
L'action de grâce. Mm-hmm. Mais ça n'en reste pas moins une impression qui nous est nécessaire pour vivre. D'ailleurs, l'agressivité... à l'origine, ça veut dire « aller vers ».
Oui.
Et donc, c'est ce qui met en mouvement, ce qui met en mouvement l'être humain, c'est et le désir et l'agressivité.
Et ça se situe à des niveaux différents, désir et agressivité.
Oui, ce sont des niveaux différents, mais... Voilà,
qui doivent agir ensemble.
Enfin. Normalement, qui sont liés, qui fonctionnent bien ensemble.
Oui.
Et qui mettent en mouvement la personne.
Mm-hmm.
Mais on a besoin de cette agressivité pour aller vers les autres. Et quand l'agressivité est insuffisante ou qu'elle ne trouve pas une expression satisfaisante dans la personne, eh bien à ce moment-là, la vitalité décroît. Les personnes sombrent dans l'immobilisme en quelque sorte, ou dans ce que certains appellent la paresse, par exemple. La paresse, c'est souvent plutôt un manque d'agressivité.
Ah oui.
Et puis un jour, tout ça, ça fait les conflits internes qui permettent pas à l'agressivité saine de s'exprimer vont éclater. Mais voilà, l'agressivité, c'est important pour être en mouvement et pas sombrer dans la nonchalance, dans l'immobilisme ou autre.
Oui, ça, c'est un manque d'agressivité, Sarah.
Oui. Mmh.
Donc c'est constructif quelque part, la bonne agressivité, on peut dire.
Voilà,
bien
c'est
orientée.
Constructif, c'est naturel et c'est constructif et c'est même nécessaire à la vie, surtout.
Ah, oui. Ah, c'est nécessaire, oui.
c'est nécessaire à la vie. Alors, par contre, quand elle est destructrice, l'agressivité est anormale et c'est une déviation de son chemin normal qui est utile à la vie.
Et souvent, quand on parle de l'agressivité, on le voit sous cet aspect-là.
On n'en voit que l'aspect négatif.
Ben oui, on ne souligne jamais cet aspect positif qui est nécessaire.
Et dans ce cas-là, elle devient négative quand elle va à l'encontre de la vie.
Oui.
Alors, ça peut prendre des formes, d'abord d'une colère négative.
Oui.
Mais à travers des attitudes verbales, des insultes, à travers des attitudes physiques, des gestes brutaux, par exemple, la violence. Parfois, c'est plus indirect. Il y a l'ironie. L'ironie, c'est il y a de l'agressivité dans l'ironie.
Mmh.
C'est le refus de parler. Il y a des silences qui sont très agressifs, par exemple, des fois.
C'est sûr.
Voilà, ou le refus d'entendre. Enfin, il y a. Donc, on voit ça, l'agressivité quand...
Ça peut être des fois plus violent, quelque part.
Qu'un geste brutal, hein, violent, mais qu'un geste agressif.
Mmh. Alors, on va voir, on va revenir et voir aussi par rapport à la violence, toutes ces nuances qui sont importantes à clarifier. Donc 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre aujourd'hui. Nous parlons de la colère. Comment gérer la colère? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Non pas ne vous mettez pas en colère quand vous arriverez ici. Maîtrisez, contrôlez votre colère en tout cas. Et puis on va justement, tout à l'heure on avait Nadia Bell, L'amour en colère. Pour détendre un peu la situation, Henri Salvador chante Faut rigoler. C'est aussi une façon de...
Alors l'humour, parfois, l'humour sur soi-même ou l'humour tout court, ça permet de détendre et c'est vrai, ça peut... Quand on ne trouve pas vraiment de moyens pour s'apaiser, l'humour peut être une bonne solution.
Voilà, c'est le cas de ce qui se passe là avec Henri Salvador tout de suite.
Radio Notre-Dame.
Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois, et les druides, trois par trois, sous le gui chantaient à pleine voix. Nos ancêtres, les Gaulois, prirent la pile à Alésia. Les barbares étaient là, mais tant pis pour eux, dire les Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois, inventèrent le tabac. Et c'est grâce à ce truc-là qu'ils se fendaient la pipe à tout de bois.
Faut rigoler, faut rigoler, avant que ciel ne tombe sur la tête. Faut rigoler, faut rigoler.
Nos ancêtres were les Gaulois, eu le dos d'être grand-papa. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a fait le tcha-tcha gaulois.
Voilà, donc c'était, écoutez, ça détend quand même, hein, justement, ouais, le rire et
ça
le...
Ça fait du bien.
Ça fait du bien, ça. Justement, dans une situation d'agressivité, un peu d'humour, voilà. Alors, le rire, là, ça, c'est quoi? C'est une émotion aussi?
Oui, enfin, le rire, c'est la manifestation de la joie.
Oui, le rire, hein, oui.
Donc,
oui.
L'émotion, c'est la joie, mais qui se manifeste à travers le rire, voilà.
C'est l'expression de la joie.
Voilà. Et celui d'Henri Salvador est contagieux.
Contagieux, oui. Alors, donc, on parlait de différentes formes. On a parlé, bien sûr, de la colère, de l'agressivité, hein, qui peut avoir un aspect négatif et pas seulement physique, mais aussi, ça peut prendre des formes indirectes. Humour, ironie, refus de parler, de regarder, enfin, voilà, d'entendre.
Voilà, mais aussi que la bonne agressivité, c'est ce qui nous met en mouvement,
c'est ça,
nous
oui.
fait aller vers les autres.
Il y a une bonne agressivité.
Et agir dans le monde.
C'est ça, hein, c'est, ouais. Oui. Autrement, on serait dans l'inertie.
Voilà.
Hein, c'est, ouais. Voilà. Donc, lorsqu'il y a, alors, parlons d'une agressivité négative, et c'est là que la violence peut intervenir, non? Si on évoque la violence.
La violence, elle intervient quand la colère ou l'agressivité ne trouve pas de moyen sain pour s'exprimer.
Oui.
Sain dans le sens de santé.
Oui. Donc la colère comme l'agressivité peuvent être bonnes, oui. Donc si elles trouvent une orientation pour s'exprimer, mais... Si elle ne trouve pas, c'est la violence. Et ça, c'est mauvais, la violence.
Voilà.
C'est toujours mauvais. Il n'y a pas de bonne violence.
Non, il n'y a pas de bonne violence. Mm. La violence, c'est en quelque sorte un point de basculement qui constitue un passage à l'acte.
Oui.
Alors, qui est très souvent mêlé d'agressivité ou de haine. Hein.
Oui.
Mais finalement, quand une personne ne trouve pas de mots pour exprimer sa colère... risque de basculer dans la violence.
C'est une façon d'exprimer, quelque part.
C'est un passage à l'acte.
Un passage à l'acte.
Hein? Oui. Quand on exprime, ça passe par des mots, ça passe... on élabore.
Oui.
C'est-à-dire, on peut ressentir de la colère, mais on va se dire, je suis en colère parce que... voilà. Là, on passe à l'acte. La violence, c'est le passage à l'acte. Qui peut être verbal ou physique, mais c'est un passage à l'acte.
Mmh. Et la haine, alors, comment
alors,
elle se situe et
la haine, elle s'enracine plutôt dans des expériences de la petite enfance, à l'époque où l'enfant ressent une ambivalence de sentiments, c'est-à-dire à la fois de l'amour et de la haine. Alors, quand l'enfant se sent frustré, mal aimé, abandonné ou rejeté, ce qui ne veut pas dire que les parents le frustrent.
Non, mais il ressent cela, lui.
Il ressent ça. Mmh. Il va se protéger, en quelque sorte, par une réaction agressive et ressentir de la haine.
Hein? Mmh. C'est l'opposé de l'amour, en fait.
C'est l'opposé de l'amour. L'enfant, il coupe un peu le monde en deux. Il y a le bon et le mauvais.
Mm.
Alors, pour le bon, il va ressentir de l'amour. Et pour ce qui est mauvais, il va ressentir de la haine. Il a un fonctionnement un peu binaire. Mm. Et donc, c'est une situation, finalement, chez l'adulte, ça devient une situation infantile qui peut être réactivée...
À l'âge adulte ?
À l'âge adulte, par une situation présente. c'est-à-dire la situation présente et réactive en quelque sorte des expériences de l'enfance ou de la petite enfance, et notamment des expériences de haine.
Oui.
Alors on voit ça souvent, par exemple, dans les passions, où il y a l'amour fusionnel, et puis d'un seul coup, ça bascule dans la haine, et les personnes se déchirent. Mm-hmm. Voilà. Ce qui montre combien l'amour et la haine, quand c'est vécu d'une façon... La passion, c'est la fusion, c'est donc une expérience assez archaïque. Ça bascule vite de l'un à l'autre.
Oui, c'est archaïque aussi, enfin, quelque chose de... Voilà, qui, où il n'y a pas de mots, il y a...
Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'élaboration, c'est dans le pulsionnel quasiment direct, sans passer par le filtre.
Tout est émotionnel, oui.
Voilà. Et du coup, ça peut basculer facilement de l'un à l'autre. Et puis... certaines personnes peuvent être restées en quelque sorte fixées à ce stade de l'ambivalence et ressentir du coup de la haine ou de l'amour vis-à-vis des autres. Hein. Mais parce qu'il y a une fixation, c'est-à-dire que cette période de l'ambivalence les a plus marquées et elle reste en quelque sorte... pourrait dire un peu arrêté, il y a un arrêt à ce stade-là, et du coup les personnes vont ressentir de la haine pour les autres.
Ou de l'amour, non,
Ou de l'amour, oui. Hein,
selon voilà. Si, comme selon, l'enfant, le même fonctionnement que l'enfant,
voilà,
quoi.
Selon si
c'est agréable,
vécu est agréable ou désagréable.
Oui, c'est ça. Mais c'est quelque chose d'infantile, enfin un peu, qui est une fixation infantile encore.
Voilà. En même temps, ça peut être réactivé par des situations présentes ou si on se trouve dans des situations telles que, au fur et à mesure, toutes nos défenses cèdent au fur et à mesure, à ce moment-là aussi, on peut régresser à ces stades-là. Hein. C'est soit une fixation, soit une régression à ces stades et retrouver les sentiments de haine. Alors, ce qui caractérise la haine, c'est surtout son aspect destructeur. Hein. Alors, qu'on retrouve dans la violence aussi.
Mais il y a une nuance quand même dans l'entrée.
Voilà, mais la haine, c'est de l'ordre de... C'est une pulsion qui... Enfin, c'est un sentiment, mais lié à une pulsion agressive. La violence, c'est le point de basculement, c'est le passage à l'acte. On peut ressentir de la haine sans qu'il y ait de violence, qu'il y ait de passage à l'acte.
Oui, ça peut être resté à l'intérieur.
Ça va rester à l'intérieur.
Et c'est mauvais.
De toute
aussi.
Façon, la haine est forcément mauvaise.
Oui, forcément mauvaise.
En tout cas, pour l'adulte qui la ressent.
Mais dans la haine, il y a c'est très négatif, c'est l'opposé de l'amour.
C'est l'opposé de l'amour et autant l'amour vise à relier, à être en relation avec l'autre, autant la haine va viser à détruire, alors ça va être soit détruire le lien avec l'autre, soit détruire la personne, dans les cas extrêmes.
Ah oui. Donc, on voit que tous ces émotions, sentiments, pulsions, on voit donc qu'avec la colère, peut s'exprimer toute une palette de sentiments, justement.
Oui, ça peut aller de la frustration, la frustration, l'irritabilité, le mépris, la colère, jusqu'à la haine et la violence. Et tous ces sentiments-là vont teinter ou vont modifier la façon dont va s'exprimer la colère, finalement. Si c'est une frustration légère, ce sera une petite colère. S'il y a de la haine, ça risque d'être une colère violente.
Mais oui. Et par exemple, est-ce qu'on peut retrouver des situations des situations où on peut revivre, des sentiments archaïques,
ouais.
parce que c'est en profondeur.
Ouais.
Si on élabore, on saisit la situation pour élaborer, prendre conscience, comprendre, on peut peut-être à ce moment-là se libérer d'un de ces sentiments qui sont restés là et s'en libérer.
Voilà,
quelque part,
c'est ce qui se
transformer.
Fait, c'est ce qui se fait en thérapie ou,
oui.
ou en analyse, par exemple, où la personne va retrouver ses expériences passées, les reprendre, les réélaborer, et puis redémarrer en quelque sorte sa croissance à partir de ces points-là. Donc il va y avoir un mouvement arrière pour retrouver ses expériences et un mouvement avant pour redéfiler jusqu'à l'âge présent.
C'est cela, oui. Refaire le parcours.
Voilà.
Oui. Il y a une sorte de régression.
Alors, Yann, c'est ce que j'expliquais, en fait, dans une autre conférence à Bernanos,
oui.
Les deux sortes d'épreuves. Il y a l'épreuve tunnel. Voilà.
Oui.
Ça, par exemple, c'est plus la tristesse. La tristesse va être une épreuve tunnel. On va la traverser.
Mm-hmm.
Puis à un moment, on en sort.
Mm-hmm.
Et puis, il y a l'épreuve impasse.
Oui.
Et là, dans la haine, souvent, on est dans l'impasse.
On est bloqué.
Ouais. Et on, comme dans une impasse, quand on arrive au bout et qu'il y a le mur, on est bien obligé de revenir en arrière.
Oui, faire marche arrière.
Sortir de l'impasse et reprendre un autre chemin.
Mmh. Ah oui, donc ces deux mouvements, le tunnel, on traverse, on arrive à l'autre bout. Et tandis que l'impasse, il faut faire marche arrière, ces deux mouvements.
Voilà.
Oui.
Et autant, par exemple, beaucoup de tristesse ou des deuils, des choses comme ça, c'est plutôt de l'ordre du tunnel.
Mm.
Quand on est dans la violence, dans la haine, c'est souvent une impasse. Hein. Et donc là, il faut reprendre les choses à leur point de départ, retrouver ce point de départ, puis... prendre un autre chemin.
Oui. Voilà, donc...
Voilà, mais ça permet de comprendre surtout qu'il peut y avoir des bonnes et des mauvaises colères.
Oui. Ah. Oui. Donc, il y a on comprend qu'il y a de bonnes et de mauvaises colères, et on va y revenir sans doute... Alors, on va peut-être commencer là. On va avoir la bonne colère. Alors, tout d'abord, on peut commencer à en parler.
Voilà. Alors la bonne colère, c'est ce qui permet l'affirmation de soi face à une situation qui est jugée anormale.
Mm-hmm.
Hein? Alors ça peut être quand quelqu'un nous manque de respect, quand il nous agresse, quand quelqu'un ne tient pas un engagement qui est important, en tout cas qui a un impact sur notre vie, quand on se sent trahi par un ami, par exemple, ou quand une personne nous met en danger, parce qu'elle conduit trop vite, par exemple. Donc, il peut y avoir comme ça une multitude de motifs de ressentir la colère.
Oui.
Parfois, on est plus sensible, d'ailleurs, à certaines situations qu'à d'autres, mais ça, c'est lié à notre vécu. Mais dans tous les cas, ces situations, la colère, elle vise à affirmer sa position.
Alors, on va y revenir dans quelques instants. On va reprendre tout ça, cette bonne colère. Pour l'instant, donc, je vous rappelle le téléphone 01 56 56 44 00. Nous parlons ce soir de la colère, hein, comment gérer la colère. Nous vous invitons à nous rejoindre avec vos questions ou vos témoignages, bien sûr. Et on se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
Parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de la rédaction de Radio Notre-Dame à 10h03 et 20h28. À Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque d'Île-de-France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 10h03 et 20h28 sur Radio Notre-Dame.
Chaque matin, avant le travail, prenez votre dose quotidienne d'amour et de vérité. L'évangile du jour, dit avec profondeur et commenté avec ferveur, c'est chaque matin à 6h26, 7h26 et 8h26.
La vidéo vous donne rendez-vous sur notre site internet www.radionotredame.com. Vous aimez écouter et réécouter vos émissions? Découvrez-les désormais en images. Du lundi au vendredi, connectez-vous dès 7h30 pour suivre nos matinales, Le Grand Témoin et La Voix est Libre depuis notre studio. Le samedi dès 10h, retrouvez Faustine Fayette en live avec toute l'équipe de mission. La vidéo en direct, c'est du lundi au vendredi de 7h30 à 10h, le samedi de 10h à 11h. Sur le www.radionotredame.com.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Ce soir, nous sommes en compagnie de Pascal Parinet, psychanalyste et gestalt-thérapeute, formateur en relations humaines. Et donc, nous évoquons la colère, comment gérer la colère. Est-ce que vous avez, parce que vous donnez des formations aussi, quelque chose là-dessus
Oui, alors le 9 novembre, on a une journée sur comment gérer l'agressivité. Alors, on va parler de l'agressivité, de la violence. Sous toutes ces différentes formes et aussi, surtout, à partir des problématiques apportées par les personnes. C'est-à-dire, le but de nos ateliers, c'est... de permettre aux personnes de trouver des pistes de solutions.
Donc, par rapport à l'agressivité, là,
voilà,
la violence...
Voilà, l'agressivité, la violence... Oui. Mais en abordant aussi les problématiques pratiques que vivent les personnes.
C'est ça, donc c'est le 9 novembre ça.
Voilà. Oui. Et puis le 18 novembre, c'est comment gérer son histoire familiale, donc c'est sur un autre thème.
Comment gérer son histoire familiale?
Encore que parfois, dans les familles, il peut y avoir de l'agressivité et de la violence.
Oui, bien sûr.
Voilà, mais c'est le thème général, c'est comment gérer son histoire familiale, comment découvrir l'impact de son histoire familiale dans sa vie, dans son scénario de vie, et quoi en faire.
Oui, voilà. Donc deux ateliers, là.
Voilà, deux ateliers.
Alors, donc on peut donner les coordonnées, parce que je crois que vous changez de... Vous êtes le
oui,
lieu,
alors
maintenant.
Nous déménageons exactement. donc on
le
va
cabinet
être
se trouve maintenant...
29 rue Berne, dans le 8e.
Rue Berne, dans le 8e. C'est derrière Saint-Lazare.
C'est juste derrière Saint-Lazare, au métro Saint-Lazare, Europe ou Rome.
29 rue de Berne. Donc
voilà.
8e.
Le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60.
Oui.
06 60 15 79 60.
Oui.
Et le mail contact@psychretien.com.
Voilà.
contact@psychretien.com. Voilà, et puis on donne aussi des conférences.
Puis,
alors
oui.
Il y a une première conférence le 14 novembre.
Oui, c'est à la Trinité, là.
À la Trinité.
14 novembre, donc.
Voilà, à 20h30, oui. Sur comment soigner les peurs et les phobies.
Oui.
Et le 28 novembre, là, à Bernanos, et c'est à 18h30, comment faire face à la dépression, alors personnelle ou dans son entourage.
Et donc à Bernanos, il y a toute une
tous les mois d'une conférence avec pour thème comment faire face. Alors on a fait aux épreuves de la vie, aux crises de la vie adulte. Et là, le 28 novembre, à la dépression.
Donc 18h30 à Espace Bernanos. Voilà. Et le 14 novembre, Centre Trinité, 20h30, là, soigner les phobies.
Donc, voilà, pour les activités du mois de novembre. On retrouve tout ça sur notre site. Vous tapez psychrétien.com et vous retrouverez tout ça, et les ateliers et les conférences.
Voilà, donc vous retrouverez, si vous n'avez pas pu noter tout cela, sur ce site. Donc nous évoquons la colère. On parlait donc tout d'abord de la bonne colère. Qui permet l'affirmation de soi.
Voilà, s'affirmer, oui. D'affirmer sa position face à une situation qui est anormale. Mm-hmm. En tout cas, évaluée comme anormale par la personne. Et normal.
Alors, par exemple,
une bonne colère, elle va s'exprimer par des paroles. C'est-à-dire, je suis en colère parce que j'ai peur. Parce que je ne me sens pas compris, parce que je ne me sens pas respecté, ou parce que je n'accepte pas ce que tu es en train de me dire. Mmh. Voilà. Donc,
Et quelque part, ça permet de mettre une distance, ces mots.
Voilà. Ça permet de dire son ressenti,
oui.
Mais en même temps, les raisons de son ressenti.
Oui.
Hein, je suis en colère parce que... Voilà, il se passe ça.
Le ressenti est la raison du ressenti.
Voilà.
Donc ça permet d'entrer dans, comment dire, une communication.
Et d'entrer dans une communication. Et finalement, on voit que dans ce cas, la colère, elle vise à protéger et à sécuriser la situation.
Oui. Hein.
Je suis en colère parce que j'ai eu peur quand tu as roulé trop vite.
Oui.
Ou encore, je suis en colère parce que je me suis senti agressé par tes paroles.
Mmh.
Donc là, la colère, elle est là pour protéger, pour mettre de la sécurité.
D'accord, oui.
Et ça, c'est souvent le cas de la colère. Hein?
Ah oui.
La colère, elle sert à la fois à s'affirmer et à se sécuriser, en quelque sorte.
Mmh. Donc,
alors après,
ça permet, oui, d'autres choses.
Oui. Oui, reste à savoir s'il y a un réel danger.
On
peut se sentir en insécurité sans qu'il y ait de réel danger. Donc, mais en tout cas, de mettre des mots, ça fait entrer dans le dialogue. Ça, finalement, il y a une situation qui aurait pu rompre la relation, rompre le dialogue, et d'exprimer, ça remet en route le dialogue.
Exprimer remet en route le dialogue. Oui.
Voilà.
Donc exprimer son ressenti et puis la raison de ce ressenti.
Voilà. Et du coup, ça permet de clarifier la situation, de rétablir la relation qui avait été compromise par la situation. Alors, ce qui est important, c'est qu'une colère saine, elle ne dure pas. Dès que la relation est rétablie, normalement, elle va s'arrêter. Hein. C'est-à-dire, il y a une situation, on ressent de la colère, on va exprimer ce qu'on ressent avec des mots, et à ce moment-là, la colère s'apaise.
Oui.
Alors, ça c'est l'idéal. Parfois, il faut un peu de temps pour digérer, mais de toute façon, ça doit passer assez vite dès que la relation a été rétablie d'une façon plus juste.
Elle peut être rétablie à moitié.
Alors, à ce moment-là, il faut du temps pour digérer.
Mais
si la relation est rétablie assez rapidement,
il n'y a pas de raison, bien sûr.
Il n'y a plus de raison d'être en colère.
Alors ça, c'est, on peut dire, la bonne colère. Hein,
oui.
Mais il y a aussi la mauvaise colère. Alors qu'est-ce que c'est que la mauvaise colère?
Alors, il y en a de différentes sortes. La première, c'est la colère non exprimée. Autrement dit, quand il y a trop de contrôle, quand la personne n'accepte pas sa colère et qu'elle la contrôle, hein, tout à l'heure on a parlé contrôle et maîtrise, quand il y a un contrôle important, et bien à ce moment-là, le contrôle finalement il devient toxique, il vient enfermer, mettre un couvercle sur la colère.
Donc ça fait cocotte minute là.
Voilà.
Et, à la longue.
Et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime.
Oui.
Et donc la colère non exprimée va s'imprimer dans le corps, ou alors elle va s'exprimer par des voies détournées.
C'est-à-dire
Alors, on disait s'imprimer dans le corps,
oui.
Toutes les tensions de la mâchoire.
Oui, oui.
Mais, par exemple, il y a eu des études statistiques sur les maladies cardiovasculaires, et notamment sur les décès à cause des maladies cardiovasculaires. Et il y a des études qui ont montré que, dans beaucoup de cas de crise cardiaque, il y avait eu une colère réprimée pendant des années.
Ah oui.
Donc là, voilà, la colère s'est imprimée dans le corps jusqu'à créer des problèmes cardiaques.
Oui.
Et puis, en dehors des aspects physiologiques, elle va s'exprimer de façon...
De quelle façon encore ?
Sournoise, dans de l'agressivité, dans des critiques... dans des paroles blessantes, dans du mépris, dans de l'ironie, dans de l'humiliation. Hein. C'est-à-dire que finalement, la colère n'aura pas été exprimée, mais
oui.
Elle va passer autrement.
Mmh.
Hein.
Oui.
Voilà, mais là, on est dans quelque chose qui est nocif, et pour la personne en colère, et pour l'entourage, quand ça s'exprime d'une façon détournée.
Oui. Alors, oui. Donc, ça s'exprime d'une façon ou d'une autre, de toute façon.
Oui. Hein, oui.
Alors, parlons maintenant de la colère, par exemple, qui s'enracine dans le passé, parce que ça peut être... justement, ne pas savoir le pourquoi d'une colère qui s'enracine dans le passé.
Alors, il y a ce qu'on appelle la violence archaïque, et ça s'enracine dans la petite enfance. Et ce type de colère est lié à des expériences précoces de frustration, où l'enfant, mais l'adulte qu'il est devenu, est resté fixé. Hein. C'est ce qu'on disait... tout à l'heure. Et ce qui fait que ce qui s'exprime, c'est pas tant la colère présente, mais la colère de l'enfant qui est réactivée.
Ah oui.
Hein?
C'est la colère de l'enfant qui est réactivée, d'accord.
Et qui continue à avoir cours, en quelque sorte, dans le présent.
Mais sans qu'il en ait conscience.
Sans que la personne en ait conscience. Alors, on retrouve ça, par exemple, chez des personnes qui sont tout le temps en colère pour des motifs qui semblent dérisoires aux autres, par exemple. Ou en tout cas, pour des motifs qui ne justifient pas de se mettre en colère. Et ce qu'exprime cette colère, c'est le mal-être de l'enfant intérieur que la personne n'arrive pas à dépasser.
Hein,
donc c'est un mal-être... passé, qui reste présent dans la personne et qui n'arrive pas à s'évacuer et qui s'exprime par cette colère.
Ça, c'est donc des colères qui s'enracinent dans le passé, c'est la violence archaïque.
Voilà.
Il y a d'autres...
Alors, il y a aussi celles qui ne s'expriment pas, qui n'ont pas été exprimées, mais qui ont été refoulées, sur lesquelles on a mis un couvercle pendant des années et qui un jour remontent à la surface. C'est ce qu'on appelle les collections de timbres, en fait. Hein.
Ah oui.
C'est un peu comme si chaque événement source de colère était un timbre, et puis quand on a rempli un album, ça explose. Et souvent, ça crée comme ça des crises dans les couples, par exemple. Quand un couple rentre en crise, il y a toute une collection de timbres, de reproches, de colère qui arrive. Grosso modo, c'est un peu comme si la personne avait mis un barrage, et puis que le barrage, il cède d'un seul coup. Hein. Et ça envahit tout, ça dévaste tout.
Oui.
Ce qui fait que la colère, elle devient énorme par rapport à l'événement réel qui a déclenché, en fait. Mais parce que derrière cet événement, il y a tout un tas d'événements qui n'ont pas été exprimés.
Mmh. Oui. Alors là, la personne, elle passe d'un...
D'un refoulement au défoulement, ce qui n'est pas ça.
Ben oui, c'est ça. Alors, on va poursuivre dans quelques instants aussi d'autres types de colère, de mauvaise colère. Mais on va écouter tout de suite, c'est Ahmed qui est en ligne. Ahmed, oui. Bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir Monsieur Parinet.
Oui. Allô? Oui, bonsoir, oui. Bonsoir, on vous entend. Oui,
oui, voilà. Un peu de loin,
Pascal a mis son casque, voilà, pour vous entendre.
Oui, bonsoir Monsieur Parinet.
Bonsoir.
Ben, merci de votre émission, c'est pas la première fois que je vous entends, et je me reconnais un petit peu dans tous les paramètres des sentiments, des émotions que vous décrivez, que vous avez décrit.
Oui.
Et pour ma part, bon, je pense que j'ai une grande frustration, alors je ne sais pas si c'est dû à mon tempérament, mon caractère, ou à mon handicap, qui est, je suis déficient visuel.
Oui.
Et par conséquent, je n'ai pas toujours été dépendant, j'étais autonome.
Oui.
Je portais même secours aux autres, j'étais volontaire. Quand je dis aux autres, c'est aux miens particulièrement. Et puis aujourd'hui, je me trouve dans la situation où je suis dépendant et je suis servi, disons, un petit peu en... Comment on appelle ça? Comment je pourrais le dire? Comme ça, par-dessus la jambe, si j'ose dire.
Oui.
C'est-à-dire... Bon, ben, il y a un courrier, je te le lis en diagonale, ça suffit. Mm. Alors, il y a bien des choses qui peuvent être lues comme ça, mais je prends cet exemple, mais c'est sur beaucoup d'autres domaines. Hein.
Oui, oui.
Nous gérons une entreprise familiale, et disons que du fait de ma déficience visuelle, il y a bien des choses que je ne peux plus faire,
oui.
Que je suis obligé de déléguer par force, pas par désir. Hein. Et les choses vont de mal en pis. Et je ne peux rien y faire, puisque moi-même, je ne peux pas prendre la direction.
Oui.
Donc, par conséquent, j'ai une frustration, je suis dans la colère. Et les choses, quand tu vois que les choses sont faites en dépit du bon sens, et que malheureusement, moi, je ne peux pas prendre le volant, quoi, pour imager. Ben, s'il y a une route, par exemple, pour aller d'un point A à un point B, où il faut 10 minutes, gens qui vont mettre un détour, ils vont faire 3 jours.
Oui.
Ce qui fait que personnellement, je me sens, je peux pas prendre le volant moi-même.
Mm.
Donc, je suis obligé d'attendre les 3 jours et puis à la limite dire merci. Donc, j'ai ce sentiment de frustration quand j'ai un courrier important à lire dans les détails et qu'on me le lit en diagonale où on me dit je te l'ai lu, t'as compris. Non, c'est pas suffisant. Mais écoute, aujourd'hui, j'ai pas le temps, on verra demain. Donc au bout du compte, je finis par devenir en colère.
Ouais.
Et c'est une colère, c'est familial, donc je ne peux pas non plus, faire, comment on appelle ça, défection.
Oui.
Je me sens toujours responsable. Mais je suis obligé de ramer tout le temps, et puis d'avaler, comme on dit, des couleuvres, et d'essayer d'arrondir les angles. Mais au bout d'un moment, ça fatigue.
Ouais.
C'est une grande frustration, il y a une espèce d'indifférence et puis voire de mauvaise foi. Et par conséquent, je suis tributaire de mon handicap et par conséquent, comme on ne peut pas prendre le volant, on est obligé de suivre la personne.
Alors,
qui conduit, même ou combien même elle peut faire un accident.
Alors, est-ce que vous pouvez répondre à...
Moi, j'entends dans tout l'énoncé que vous avez dit, j'entends la réponse. À votre colère. C'est-à-dire, vous le dites très bien, je suis devenu dépendant et j'accepte pas cette dépendance-là. C'est quelque chose de très très fréquent, hein. Quand une personne perd la vue, par exemple, mais ça peut être autre chose, devient dépendante, finalement. C'est très difficile à accepter et ça génère beaucoup de colère.
Excusez-moi, alors, monsieur Farinet,
oui.
C'est que, disons que moi j'avais une expérience du temps où j'étais déjà, où j'étais autonome, hein,
oui.
Je menais des choses par moi-même, sans l'aide de personne.
Oui.
Et aujourd'hui, je n'ai pas le choix que d'accepter ce qui se fait, même si c'est mal fait.
Eh oui.
Puisque je ne peux pas, par exemple, oui. vous avez l'habitude de faire un travail. Du jour au lendemain, vous êtes dans la capacité de le faire. La personne avec qui vous êtes, disons, associé, hein, quand je dis associé ouais. ou familialement, hein, et vous dit, bon, écoute, moi je le fais, c'est bien, c'est pas bien, t'as pas le choix. De toute façon, tu vois pas, donc par conséquent, tu es obligé d'accepter, mais tu n'as rien à dire à la limite.
Mmh. Alors comment vivre ça, oui?
C'est vraiment désagréable, ça
ah oui,
finit par casser le...
On comprend votre, bien sûr.
Ça, ouais. ça casse l'élan. Alors que je suis quelqu'un de plutôt volontaire, j'ai toujours fait des choses par moi-même, même pour les autres.
Et voilà,
aujourd'hui, mais... je me trouve dans la situation où je suis obligé de suivre.
Oui, oui, on a bien et compris oui. votre
excusez-moi,
situation.
Je répète, oui.
Ouais. Et c'est ça qui n'est pas facile.
Non.
Les autres, ils ont toujours été comme ça. Si vous voulez, simplement, avant, vous ne dépendiez pas d'eux. Et du coup, ça ne vous dérangeait pas qu'ils soient comme ça. Là, c'est la dépendance qui crée cette frustration et cette colère. Et ce qui est accepté, alors il y a les deux aspects à accepter. Il y a l'aspect de la dépendance. Voilà, vous avez plus les capacités que vous aviez avant. Et donc, il y a des choses que vous pouvez plus faire. Il y a cet aspect-là, et puis il y a l'acceptation de l'autre aussi qui est différent et qui va faire les choses d'une façon...
Ben je suis mis sur le banc de touche. Hein.
Oui, mais vous...
Je ne suis plus acteur.
Voilà.
Je suis, disons, dépendant, en fait, c'est le mot. Hein. Je ne suis plus acteur des décisions.
Oui, voilà. C'est le moment où il y a une transformation intérieure qui doit s'opérer.
Ouais, et c'est vraiment là où, alors, c'est difficile de résumer, en fait, parce que quand je parle d'accepter la dépendance, c'est, en fait, c'est que cette dépendance, elle crée tout un tas de situations et tout un tas de sentiments en vous. Mais qui sont directement liés au fait de la dépendance et c'est ça qui est accepté presque un par un jusqu'à voilà.
Je dois accepter la médiocrité et puis dire que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et la négligence.
C'est là où il y a une transformation sans doute à opérer
voilà,
qui est difficile.
C'est très difficile, mais c'est plus vous qui maîtrisez les choses.
Il y a un lâcher-prise, quelque part.
Il y a vraiment...
Mais quand vous avez, vous avez quelqu'un qui n'est pas responsable dans le sens où je l'entends, c'est-à-dire va prendre l'autoroute sans vérifier s'il a de l'essence dans son réservoir. Quand vous arrivez au milieu de l'autoroute et puis qu'il tombe en panne, vous dites pourquoi t'as pas. Ah écoute, c'est comme ça.
Et ben voilà.
Donc
et
vous ne maîtrisez plus rien, donc vous êtes obligé de subir les aléas des gens, excusez-moi du terme, qui sont inconscients ou imbéciles.
Oui, mais.
Vous êtes dirigé par des gens qui sont incompétents, alors qu'est-ce que vous voulez faire?
Est-ce
que vous mettez en colère?
Voilà, quand on dépend d'eux, on ne peut rien faire, malheureusement, sauf accepter. Et c'est vrai que si j'accepte d'être conduit par quelqu'un et qu'il n'a pas mis d'essence, il tombe en panne. Mais lui, ça lui pose peut-être pas de problème. Il appellera la dépanneuse, ça va lui coûter de l'argent, enfin, vous voyez. Mais peut-être que lui, ça lui posera pas de problème. Et dans ce cas-là, j'ai pas d'autre choix d'accepter. Parce que j'ai été en situation de dépendance. Mais voilà, ça veut dire d'avoir accepté d'être en situation de dépendance.
Donc il y a tout un travail intérieur à faire.
Et ça, oui, peut-être.
Je n'arrive pas.
Il faut vous faire aider. Il faut vous faire aider, Ahmed. Hein,
voilà.
Tout seul, peut-être, vous n'arriverez pas.
C'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de personnes dans votre situation qui n'y arrivent pas. Et c'est important de vous faire aider.
Voilà. Merci Ahmed, merci. On va se retrouver dans quelques instants.
Le
monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame.
8h30, 18h.
Le journal de Radio Vatican.
En Israël, le mur de séparation fait toujours débat.
19h.
Le magazine.
Ce mercredi, le pape a débuté sa catéchèse en revenant sur le credo.
Minuit 30.
L'actualité de l'Afrique.
Rendez-vous avec l'Afrique.
L'actualité de toute l'Église.
C'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. En marche vers dimanche.
Bonjour, c'est Marie-Noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
En marche vers dimanche, avec Marie-Noël Tabu, du mardi au vendredi à 11h03, sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois, l'émission qui répond à toutes nos questions sur la foi et l'Église. Devons-nous obéir au pape ? L'Église condamne-t-elle l'homosexualité ? Devons-nous craindre le jugement de Dieu ? Chaque semaine, un invité répond, explique, éclaire. 1000 questions à la fois, c'est une émission qui ouvre toujours des perspectives, en partenariat avec le site croire.com.
1000 questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve, tous les mardis à 21h30 sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leurs familles et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Voilà donc ce soir en compagnie de Pascal Parinet, comment gérer la colère. Je ne sais pas si nous avons... Non, on n'a pas encore l'auditrice en ligne. Donc on va poursuivre un petit peu un autre type de colère, alors puisqu'on était dans les mauvaises colères, Pascal Parinet.
Alors, il y a la colère qui a reproduit un modèle.
Oui.
Oui, je disais la colère qui reproduit un modèle. Par exemple, quand quelqu'un a vécu dans une ambiance familiale de colère, de violence, à ce moment-là, si c'est le seul modèle qu'il a eu, il peut reproduire ce même modèle. Ce cas-là, il y a tout un travail à faire pour que la personne prenne conscience qu'elle reproduit et que c'est pas forcément ce qu'elle est. Souvent les gens disent dans ma famille on est comme ça, j'ai hérité ça de mon père, de mon grand-père.
C'est pas, il faut en faire quelque chose soi-même.
Voilà. Pardon. Il y a pas de fatalité, il y a pas de fatalité à...
Oui, bien sûr.
À la reproduction, hein. Ça sert à rien de justifier en disant dans ma famille c'était comme ça. Simplement, il faut prendre conscience que on est en train de reproduire des choses et regarder comment on peut arrêter de reproduire.
On n'est pas responsable de ce qu'on reçoit, mais on est responsable de ce qu'on fait. Hein.
Voilà.
Oui. Alors, donc, ne pas reproduire, c'est toujours pareil, ça demande un travail sur soi-même.
Prise de conscience, de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on en fait.
Oui. Alors, donc, par exemple, on reproduit des choses, mais ça justifie finalement, quand on réagit comme ça, on justifie... un comportement
qui n'est pas adapté.
Voilà. Alors et lorsque la colère bascule dans la violence, alors est-ce que bon,
alors ça on le retrouve principalement dans deux cas. Le premier, c'est quand le contrôle est tel que la colère a été réprimée et qu'elle devient tellement forte au bout d'un moment que la personne explose. Hein, ce que je disais tout à l'heure, le barrage qui lâche en quelque sorte.
Oui, oui.
C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la personne qui n'a pas appris à contenir ses émotions. Et du coup, dès qu'il y a une émotion, elle est débordée, et notamment par la colère.
Oui.
Ce qui veut dire que l'absence ou le trop de contrôle peut mener à la violence. Et que c'est important à la fois d'avoir du contrôle, mais plutôt de la maîtrise, mais de ne pas en avoir trop, parce qu'il y a un moment, ça explose.
Il faut y avoir une sorte de souplesse.
Voilà.
On va y revenir dans quelques instants. On écoute Corinne qui est en ligne. Bonsoir Corinne.
Oui, bonsoir Chantal. Bonsoir Monsieur Parinet.
Bonsoir.
Oui, ce sujet me parle beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je ne veux pas trop développer. Je voudrais juste peut-être faire un lien avec la colère et la maladie.
Oui.
Parce que bon, je pense que j'en suis un peu là. Voilà, parce qu'actuellement on parle beaucoup de maladies inflammatoires, etc. Je suis moi-même dans le domaine de la santé, hein. Je me considère également comme thérapeute. Hein. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle je trouve quand même. Mais... par rapport à ce que j'ai entendu là depuis le début d'émission, c'était marrant parce que la première musique, là, le titre c'était L'amour en colère. Donc je me suis dit, tiens, c'est exactement moi.
Ouais.
Parce que l'amour est en colère, forcément. Je pense que je suis quelqu'un qui... Alors, j'ai déjà effectué, donc là je m'adresse plus à Monsieur Parinet, parce que j'ai déjà effectué une cure thérapeutique, hein, donc ouais. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, etc. Je suis une enfant, je pense, avec des capacités supérieures à la moyenne, on va dire, pour, voilà, j'ai pas été évaluée, mais je ferai ça plus tard. Aujourd'hui, la colère, chez moi, elle se traduit, je l'ai analysée comme ça, hein. Il m'a fallu beaucoup de discernement là pour savoir que c'était la colère. Donc je prie beaucoup, hein, je vais chez les moines, je prie beaucoup, hein, vraiment, parce que je pense que là, c'est tellement énorme que bon. Elle me submerge, mais c'est vraiment difficile, tellement difficile à discerner, quoi. Mais chez moi, elle se traduit, dernièrement il y a eu un petit événement, et je ressens des brûlures dans le corps. Voilà, j'ai le corps qui brûle. Voilà, donc j'ai eu des épisodes d'inflammation, j'ai eu tout ça, voilà, etc. Dernièrement, j'ai vu mon médecin et je lui explique ma petite problématique, on va dire. Il me dit, mais vous avez une fibromyalgie. Bon, c'est très bien de balancer ça, entre guillemets, avec des psychothèses. Et heureusement que j'ai la foi, je vais dire, c'est vrai que là, je suis jamais allée voir un médecin pour diagnostiquer telle ou telle maladie inflammatoire, parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je pense que je suis ma maladie, c'est la colère. Et bon, voilà, donc c'est vrai que je ne l'ai pas exprimée durant l'enfance, ça c'est clair, elle est réprimée, et très rapidement, j'ai dans mon environnement très proche, ma maman, on va dire. Donc qui est, bon voilà, je vais le dire tout de suite, Monsieur Parinet, vous allez comprendre, ma maman, elle a une psychose blanche. Donc c'est une maman abusive. Et voilà, et donc, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, que faire? Comment exprimer une colère envers elle au jour d'aujourd'hui? À quoi ça servirait?
Oui, alors on va voir un peu plus tard. Peut-être il y a le pardon aussi. Hein. Il y a déjà l'acceptation, mais on va développer un peu après comment gérer. Il y a l'acceptation avec le lâcher prise et puis ce lâcher prise qui mène au pardon. C'est vrai que mais parfois, ça passe par tout un travail, c'est pas instantané, et quand il y a eu des difficultés dans l'enfance, et que ça a duré des années, voilà, ça nécessite un travail en profondeur, qui demande un peu de temps, mais... Voilà, il y a un moment, moi je dis souvent à des patients, par exemple, qui ont des parents âgés, je dis, mais aujourd'hui, vous n'allez pas aller exprimer votre colère à vos parents, ça ne sert à rien, ils sont âgés.
Bien sûr. Mais
par contre, il peut se faire tout un travail personnel, où la colère pourra s'exprimer, mais dans le cadre du cabinet de thérapie, Et puis il y aura une acceptation qui va se faire, et puis il y aura un lâcher par rapport à la colère, et puis un pardon qui pourra se donner. Voyez.
Ouais, ouais, non. On retrouve toujours les mêmes ingrédients, hein, lâcher prise, acceptation. Donc je pense que ça, de toute façon, c'est la prescription d'une manière ou d'une autre.
Voilà, parfois il faut du temps, et parfois il faut se faire aider aussi, parce que tout seul, on a des zones d'ombre, il y a des choses qu'on voit pas en nous, et on a besoin d'aide, du regard d'un autre pour ça.
Ouais, c'est exactement ça. Je voulais juste témoigner un peu comme ça pour attirer aussi l'attention des personnes qui sont soignées médicalement. Moi j'en suis pas encore là.
Ouais.
J'ai un rendez-vous prochainement, mais je suis certaine de mon diagnostic. Donc
Vous savez, je parlais tout à l'heure des maladies cardiovasculaires où il y a des statistiques qui montraient.
Ah, mais complètement.
Il y a les deux quand même au final. Au final,
Bien sûr, monsieur, il m'est arrivé une fois, j'étais tellement en colère, je parlais, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, il y a eu le deuil de mon père, et j'ai vraiment senti que je pouvais faire cet accident-là. Vraiment, je l'ai senti. Hein.
Oui.
Et là, j'ai eu une prise de conscience, mais ça, c'est parce que je pense que j'ai beaucoup de bol quelque part, beaucoup de chance. Et j'ai compris qu'on pouvait faire une crise cardiaque, quoi, tellement la colère, tellement l'injustice, des années d'injustice, et puis ça continue. Hein. Donc moi, c'est familial, donc c'est coupure. Hein. Parce que, il n'y a pas de dialogue possible, malheureusement. Ouais. Vous savez, il n'y a pas de dialogue possible. Il y a des personnes qui dysfonctionnent tellement, tellement, tellement que je ne peux pas être l'élément qui va refaire tout, et je ne pourrais pas de toute façon, et je ne veux plus. Et voilà. Ouais.
Mais vous pouvez faire le travail pour vous-même et pour trouver la paix en vous.
Bien sûr, c'est exactement ce que je fais.
Vous êtes sur la bonne route.
Vous ne pouvez pas changer les autres, mais faire ce travail.
Merci Corinne, merci. Voilà. Bonne route.
Peut-être pour les auditeurs, c'est important de préciser que il peut y avoir les deux, c'est-à-dire quand je dis la colère accumulée des années, ça sécrète des hormones. Hein. Et ces hormones viennent influencer le corps et l'empoisonner en quelque sorte et créer des maladies cardiovasculaires. Mais il y a un moment, c'est les deux qu'il faut soigner. C'est et la maladie physique qui a été déclenchée par l'accumulation et la colère. Mais il ne faut pas ignorer la maladie physique.
Voilà. Voilà. Bon, on va écouter peut-être très rapidement Éléonore. Éléonore, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir Monsieur Parinet.
Bonsoir.
Je voulais vous demander quelle attitude on doit adopter en face de quelqu'un qui est à sa colère paroxysmique, je sais pas comment on appelle ça, il est à son paroxysme de colère, et vous de dire, maintenant je suis en face, c'est concernant mon frère par exemple, et vous dire, le pauvre, ça va passer, il est comme ça, moi je mets Jésus à côté de moi pour avoir un peu de réconfort, et puis je buvarde absolument tout, mais cette colère continue bien entendu, jusqu'à, comme vous disiez, appréhender peut-être une situation de violence extrême où on peut passer à l'acte. Mmh. Alors, ça m'est arrivé dernièrement, et qu'est-ce que j'ai fait? Je m'étais déplacée en province pour aider mon frère, et en fait, j'ai dû prendre le premier train du matin, parce que j'ai eu peur de cette attitude-là où je ne pouvais rien faire, et je me dis, ça peut que s'aggraver en fait, hein, s'il ne s'est pas soigné, ça peut s'aggraver. Donc, et ça vient d'un seul coup, hein, comme vous dites, les mâchoires qui se attablent déjà, c'est arrivé après le repas, les mâchoires qui se raidissaient, il préparait déjà quelque chose, je le sentais. Mais je me dis, je vais le calmer, je vais être très patiente, je suis sa sœur, après tout, c'est la fratrie. je vais essayer. Ça, c'est dû certainement à ses antécédents. Et alors, non, pas du tout. Il s'est mis à se déclencher parce qu'il y avait une tache, je ne sais où, etc. Et alors, comme je ne suis pas venue de suite pour voir cette tache-là, il s'est mis en colère, enfin, dans un état épouvantable. Et je me dis, moi, je me suis dit, ben, il n'y a plus rien à faire, quoi. C'est là où je me suis dit, il n'y a plus rien à faire. Si j'essaye de le calmer, ben, il va encore redoubler de colère, etc. Et j'ai pris le premier train de 7h20.
Alors, qu'est-ce que est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce qu'il y avait une autre solution?
Moi, c'est la solution que j'ai prise.
Oui, on
voilà.
a
des ans, pour Et parfois, c'est une bonne solution. Alors, ça peut être d'aller faire un tour, de changer de pièce, mais souvent, quand changer de pièce, c'est pas suffisant. La personne en colère suit dans l'autre pièce. Voilà, parfois, enfin, quand ça approche la violence, vaut mieux partir. Alors, ça peut être partir un quart d'heure, une demi-heure, le temps que la colère de l'autre s'apaise, ou même quand c'est soi-même qui est en colère, il vaut mieux aller prendre l'air, attendre que la colère passe et puis revenir.
Mais j'ai vu que c'était.
Oui, il y a des situations où c'est pas possible.
Vous n'avez plus rien à faire. Ben oui. L'enseigne que j'ai dû sortir de la cuisine et sortir pieds nus dehors. Enfin, j'étais affolée. Et dans la nuit, il y a eu cette espèce d'émotion. Enfin, j'étais même plus j'étais dans la décision, on peut dire peut-être émotionnelle. Hein. Ben, ma pauvre, ben, il n'y a plus rien à faire, il faut que je m'en aille, quoi. Et puis le lendemain, ça s'est fait comme ça. Vous voyez, j'ai dû faire ma valise et puis, sans prendre mon billet de train, je l'ai pris à la gare même. Hein, bien sûr. Hein,
La peau. Voilà, en fait, il y a en fonction de la colère, de sa fréquence, du niveau de violence ou autre, ça peut être mettre un peu de distance, aller faire un tour, un quart d'heure en attendant que la personne se calme, ou quand c'est vraiment trop, partir, comme vous l'avez fait.
Partir. Hein? Parce que je me dis, c'est enraciné. Vous comprenez, M. Parinet?
Oui, mais...
C'est enraciné.
Voilà.
Alors, et c'est tout le temps comme ça, hein, je crois, parce que la distance, alors je me dis, ça va faire quelque chose, la distance, mais quand je reviens pour l'aider, pour lui soigner ses poules quand il s'en va quelque part, je ne sais pas, au Cameroun ou ailleurs, je vais soigner ses poules, leur donner du grain, etc., je viens pour bien faire, moi, je sais, je compte rien du tout, je fais ça vraiment de bon cœur, et bien, il trouvera toujours quelque chose, vous voyez, j'ai donné trop aux poules, j'ai donné, c'est pas ça qu'il faut donner, enfin, c'est, vous comprenez, c'est des choses, il cherche toujours l'ennui, quoi, le truc, quoi,
vous comprenez ? Voilà, mais je pense que vous n'avez pas à vous justifier, c'est la solution que vous avez trouvée. Ce que je disais, voilà, en fonction de la gravité de la colère des personnes, ça peut être une petite distance ou ça peut être partir et puis ça peut être rompre complètement la relation
quand c'est ce que j'ai envisagé.
À l'extrême, bien sûr.
Ça m'ennuie, hein.
Ouais.
C'est à vous de juger, là, hein, justement, en fonction de ce que vous. Enfin, voilà, de la gravité de la situation. En tout cas, voilà, vous avez trouver la bonne solution en partant cette fois-là. Merci Éléonore. On va se retrouver dans quelques instants. On écoute tout de suite, c'est Yves Montand. C'est si bon.
Radio Notre-Dame.
Oui, mais c'est si bon de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons, c'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre, et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Tellement libre et je n'en veux plus d'autre, car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait ho, elle me fait ah, c'est bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est bon de jouer du piano tout le long de son dos tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si beau quand je la tiens dans mes bras de me dire que tout ça c'est à moi pour de bon. Cherche pas la raison, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est trop bon.
Voilà, c'est si bon, c'était Yves Montand. Voilà, on parle de la colère ce soir, comment la gérer. Mais justement, voyons, hein, trouvons, voyons comment la gérer, parce que toutes ces situations, ça pourra donner, c'est ce qu'attendent nos auditeurs, comment gérer la colère. On voit bien, on a eu tout, des témoignages différents.
Voilà, et c'est vrai que souvent on dit c'est important d'accueillir ses émotions, mais oui. Pour les personnes, qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire, oui.
Ses émotions. Alors, accueillir sa colère, ça veut d'abord dire la reconnaître.
Reconnaître qu'on a de la colère. Et c'est pas si évident, si elle peut des fois être masquée, rentrer.
Voilà.
Ou...
Ouais. Oui. Et par exemple, il y a plein de gens qui ont la mâchoire complètement crispée et qui n'ont pas conscience qu'ils sont en colère.
Oui.
Et pourtant, qui sortent, qui disent des choses très agressives, par exemple. Mais ils n'ont pas la conscience d'être en colère. Donc c'est déjà d'être conscient et de reconnaître qu'on est en colère. Et puis après, ça va dépendre du type de colère. Donc quand elle est bonne, c'est déjà de l'accueillir, d'être conscient sans en avoir peur, et puis d'apprendre à l'exprimer en disant... Je suis en colère parce que je ressens ça, parce que je me sens incompris, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on parle de soi, de ce qu'on ressent, de ce qu'on est en train d'éprouver, de vivre, et ça avec des mots. Déjà, ça permet pour soi-même de se le clarifier. Je suis en colère, c'est vrai, mais parce que je ressens quelque chose plus profondément derrière cette colère-là, j'ai un ressenti. Et puis, ça, de ne pas couper la relation, surtout, et d'entrer dans un dialogue avec l'autre, de pouvoir se dire, mais aussi de pouvoir entendre ce que l'autre a à dire. Y a les deux, hein.
Oui, bien sûr. Et oui,
donc,
c'est ça.
Voilà.
Mais est-ce que si l'un est en colère, l'autre aussi a une colère?
Souvent la colère...
On disait qu'elle était contagieuse.
C'est contagieux, oui. Et ça se vit à deux, la colère. Ou à plusieurs, en tout cas. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience que il n'y a pas nécessité de tomber d'accord.
Oui.
D'ailleurs, c'est pas toujours possible d'être d'accord. Ce qui est important, c'est d'abord de s'exprimer, de pouvoir se comprendre. Donc s'exprimer et d'entendre l'autre, de pouvoir se comprendre, malgré les différences. C'est-à-dire, même si on n'est pas d'accord, on est différent, on a le droit de ne pas être d'accord, mais au moins
on a pu exprimer. Chacun.
Oui. Voilà, et se dire au-delà de nos différences.
Oui. Alors ça, c'est pour la bonne colère. Mais alors, la mauvaise colère, on a entendu tout à l'heure, peut-être alors, justement, Éléonore par rapport à son frère.
Ça, c'est plus compliqué. Et souvent, les mauvaises colères, alors, quand elles sont importantes ou quand elles sont fréquentes, ça va nécessiter un travail sur soi. Alors, par exemple, quand ça vient d'un contrôle excessif, eh bien, il est nécessaire d'apprendre à lâcher progressivement ce contrôle. Mais il faut apprendre à ouvrir la vanne tout doucement et pas à ouvrir tout d'un coup. Voilà, ouais. Sinon, ça
revient, ça explose. Le barrage envahit tout.
Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un apprentissage qu'on peut faire en thérapie, d'apprendre à ouvrir la vanne des émotions tout doucement, de façon à évacuer au fur et à mesure. Ouais. Et puis être libéré de sa colère.
Ou comme une bouteille d'eau gazeuse, par exemple, un liquide gazeux.
Voilà, on ne l'ouvre pas quand elle a été secouée, on ne l'ouvre pas d'un coup parce que ça en met partout.
Oui.
On ouvre un peu, on laisse baisser la pression, on referme, on rouvre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression, et puis à ce moment-là, la colère est partie.
C'est une bonne image, oui. Alors ça, c'est donc la pression, voilà.
Voilà, quand il y a trop de contrôle, quand c'est le contraire, qu'il y a un envahissement, qu'il n'y a pas de contrôle, il s'agit d'apprendre à contenir, là. Ça va être le contraire.
Ah oui, contenir.
Et pour ça, ça va être de restaurer des frontières entre la personne et son environnement. Mais une frontière qui puisse contenir, tout en n'enfermant pas, pour pas arriver au niveau de contrôle qu'on venait de citer avant.
C'est toujours très délicat, hein. Oui. Alors, dans tous les deux cas.
Et puis, dans les deux cas, il s'agit de réapprendre à contenir la colère, tout en la laissant s'exprimer, en apprenant à exprimer, mais en ouvrant les vannes tout doucement, de façon à ce que ça puisse s'exprimer avec des mots, avec... Je crois que c'est important de mettre des mots.
Oui. Alors, oui.
Et puis, quand il y a la violence, là, pareil, il va falloir apprendre à la gérer, à ne pas basculer, donc à ne pas attendre que ça bascule dans la violence. Au besoin, à remettre de la loi.
C'est-à-dire,
parce que
ça signifie...
la violence, c'est pas acceptable.
Donc, mettre de la loi, c'est poser des règles.
Poser des règles.
Des limites, oui.
Voilà, des limites, des interdits, même. Et puis alors pour la haine, c'est vraiment un travail vraiment en profondeur où il faut remonter aux sources de cette haine.
Alors on peut dire en deux mots qu'est-ce qui empêche, parce qu'une question qui se pose souvent face à la colère récurrente et à la haine, c'est qu'est-ce qui empêche de lâcher justement, de passer à autre chose.
Ouais, et ça c'est vraiment une question, alors ça va dépendre, parfois c'est un moyen de garder un lien et l'adage, ça serait pour la personne, il vaut mieux la colère ou la haine plutôt que de perdre le lien.
Oui, on voit ça dans les familles, les couples et tout ça qui se déchirent.
Qui préfèrent se déchirer plutôt que la séparation. Et on voit que là, la colère, elle est une protection contre la perte d'un lien. D'autres fois, c'est un sentiment d'impuissance ou de dépendance. Voilà, on a eu un témoignage sur la dépendance. Qui fait basculer dans la colère parce que l'impuissance ou la dépendance est pas acceptée et la colère redonne un sentiment de puissance.
Et encore, il y a d'autres... d'autres fois, c'est encore...
Et puis, parfois, c'est une protection contre l'effondrement ou contre le vide quand il y a une personne qui sent qu'elle risque de s'effondrer psychiquement, donc de sombrer dans la dépression, ben, la colère va être une protection. Hein, oui. On disait, c'est aussi une protection.
Et par rapport à tout cela, alors, parce qu'on arrive vers la fin, la place du pardon, parce qu'il faut y arriver, dans tous ces cas de figure, voilà, à quel moment ?
Ben, dans tous les cas, c'est qu'il y a quelque chose à pardonner. S'il y a de la colère, oui. il y a un pardon à donner.
À donner, oui.
Et en même temps, il ne s'agit pas de le donner trop vite. C'est pas un pardon intellectuel.
Oui.
Et ça suffit pas quand la colère colle à la personne, en tout cas. Et ça passe par un travail sur soi en profondeur, mais qui, à un moment donné, va déboucher sur l'acceptation de sa propre condition humaine, mais aussi de la condition humaine de l'autre,
oui.
Et finalement arriver au pardon, une fois qu'on accepte d'être humain et que l'autre est aussi humain.
Avec nos limites.
Ça débouche sur le pardon et on peut pardonner à l'autre.
Voilà, donc c'est tout un chemin. Alors, voilà, merci Pascal Parinet. Il y a Ginette, peut-être on peut lui dire un mot. Elle dit, mon fils est bipolaire et par moments il est agressif, il est imprévisible, il me fait peur. Qu'est-ce que je dois faire ? Elle a 83 ans, son fils une cinquantaine d'années.
D'abord, se faire entourer, ne pas fonctionner en vase clos tous les deux. Ce qui arrive souvent quand il y a un problème psychique, se faire entourer et puis qu'il y ait des personnes qui puissent prendre le relais, aider son fils. Peut-être il y a son fils a besoin d'aide, alors qu'il y ait des gens autour d'elle qui puissent s'occuper de son fils pour qu'elle puisse souffler un peu. Voir avec le médecin de son fils,
peut-être. Il ne faut pas qu'elle reste seule de cette façon-là.
Il ne faut pas rester seule, il faut vraiment se faire aider, se faire entourer. Il
faut qu'elle trouve, ne serait-ce que par le médecin, pour voir des solutions.
Oui.
Voilà. Il y a Jean-Claude qui demandait, il n'a pas noté le numéro, c'est 29 rue de Berne. Hein. Il demandait,
Voilà, mais on ne peut pas venir comme ça.
Non, non, mais c'est le téléphone, c'est le téléphone qu'il n'a pas.
C'est le 06 60 15 79 60.
06
60 15 79 60.
Voilà, puis les renseignements sont au standard dans la journée si vous n'avez pas pu noter.
Voilà, et sur internet à contact@psychretien.com.
Un grand merci Pascal Parinet. Voilà, nous aurons une prochaine émission sur la tristesse. Un grand merci, merci à nos auditeurs, merci également à Joël, Jessica, Arlette et Laurence qui vous accueillent au standard ce soir et Guillaume qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute dans la nuit, notre invité sera le père Daniel Fouché du diocèse de Nantes, conférencier, animateur de retraite et il accompagne aussi de nombreux pèlerinages. Le thème de la soirée, pour une civilisation de l'amour. Je vous souhaite une très très bonne nuit à tous, à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
En ce jour qui s'achève, nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous la prions avec les moniales bénédictines de l'abbaye Saint-Michel de Kergonan.